Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Moi, je vais continuer plus dans cet aspect-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'être crucifié avec Jésus-Christ? Puis je vais donner une bonne introduction à matin dans l'Épître aux Romains de cette crucifixion-là. Fait que c'est ce qu'on va faire ce mercredi, toujours en se divisant en petits groupes pour des discussions dans les groupes. Avant que les enfants partent à l'école du dimanche, je vais prier pour eux. Puis on va demander à Dieu de les bénir. Merci beaucoup. En passant, j'aimerais dire merci à Sarah spécialement pour toute la période du COVID. En plus d'avoir l'école du dimanche le dimanche, les enfants ils ont eu l'école du dimanche le jeudi, puis des fois le mardi, puis le samedi matin. Fait que ça a été vraiment un beau soutien. Tu sais, on a fait plus pour les enfants pendant la période du COVID que hors COVID. Fait que j'aimerais ça qu'on la remercie beaucoup pour ça. Fait que Gilles va faire l'école du dimanche, je pense, ce matin. OK. Seigneur, je te prie pour les enfants. Je te remercie pour Sarah, Seigneur Dieu, d'abord, pour toute cette organisation-là qu'elle a fait pour nos enfants, Seigneur, durant cette période de crise. Je prie de la bénir, Seigneur Dieu, elle et sa famille, ses enfants. Je prie que les enfants vont être bénis ce matin, que tu vas les conduire dans un enseignement qui va leur donner soif et faim de ta parole. Au nom de Jésus, amen. Et je vais inviter, dans le fond, c'est qui fait le partage pour c'est Benoît. Ah, oh, merci. Fait que je vais inviter Benoît à s'approcher pour l'introduction. Les enfants peuvent aller à l'éducation chrétienne.
Un, deux. Cela fonctionne.
OK, fio.
Bon, bon matin tout le monde. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu en avant. Bon, c'est parti. Qu'est-ce que je veux vous apporter ce matin? Une question pour vous autres. Ça se peut-tu qu'on oublie des fois, comme on pourrait dire, dans le tourbillon de la vie va vite. On est dans un monde qui nous tient occupés physiquement ou mentalement, là, notre esprit, tout. Là. Ça se peut-tu que là-dedans, dans cette vie-là, des fois, on oublie un peu qu'est-ce qui s'en vient pour nous autres dans le futur? C'est sûr que nous autres, en tant que croyants, qu'est-ce qu'on vit? Ça va pas tout disparaître. Là. Qu'est-ce que le monde vive, eux autres, ça va tout disparaître. Ça. Il n'y aura plus rien de ça. Qu'est-ce que nous autres, on vit? Qu'est-ce qui a rapport avec Dieu? Ça va pas tout partir, ça. Ça va rester. Puis, si ma mémoire est bonne, même... Je pense que dans le millénium, là, ceux qui ont été fidèles, là, ils vont régner avec Christ. Ils vont, pense qu'ils vont juger. Puis, ouais. Puis là, je voudrais vous apporter un passage que j'ai lu, qu'on dirait que c'est prophétique un peu. Là. Ça ne parlait pas directement de ça, mais de la manière que c'est écrit, ça parle de ça. Puis je vais vous le lire. Dans Ésaïe 32. De 1 à 8. Un roi régnera alors conformément à la justice et des chefs gouverneront conformément au droit. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des cours d'eau dans le désert, comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride. Les yeux de ceux qui voient ne se détourneront plus, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Les gens pressés réfléchiront pour comprendre, et la langue de ceux qui bégayent parleront vite et distinctement. On ne donnera plus au fou le nom de noble. On ne dira plus à l'hypocrite qu'il est une personne de valeur. En effet, le fou parle avec folie et son cœur s'applique au mal pour commettre des sacrilèges et dire des sottises contre l'Éternel. Il laisse ainsi celui qui a faim l'estomac vide et écarte la boisson de celui qui a soif. Les armes de l'hypocrite sont perverses. Il forme des projets coupables pour perdre les plus humbles par des paroles mensongères, même quand le pauvre est dans son droit. En revanche, celui qui est noble forme des projets nobles et persévère dans ses nobles intentions. Fait que je pense que ça parle un peu de justement de... Parce que en fait, faut pas oublier qu'est-ce qui s'en vient, même si, je sais pas, on a notre travail ou nos passe-temps ou nos hobbies, comme on pourrait dire. Il y a quand même quelque chose qui s'en vient. Puis quand on rencontre des gens dans notre vie de tous les jours, moi le premier, je plaide coupable. Faudrait toujours penser de tout ramener à la parole de Dieu, parce qu'en fait, tout s'en va là. Fait que si jamais il y en a, je peux vous le dire vite de même, là, dans Malachie 3, 1 à 9, là, mettons, en gros, ça dit qui pourra supporter le jour de sa venue quand il va revenir. Puis il y a aussi 2 Timothée 4, 1 qui parle de quand il va revenir, il va juger les vivants et les morts. Ça, c'est pas mal tout le monde, d'après moi. Fait que c'est ça que je voulais vous apporter ce matin. Puis passez un bon dimanche. Amen.
Un, deux, deux. OK. Donc, tournez dans Romains. Ça va être pas mal dans Romains que ça va se passer. Je leur dis pour l'enregistrement. Je vais voir si mon son est fermé pour pas que ça fasse du fil ici. OK. Parfait. OK. Excellent. Notre verset aujourd'hui, ça se trouve dans Matthieu. Ça parle du joug. Jésus nous invite à prendre son joug. Il nous dit de venir à lui, puis de prendre son joug, puis il nous dit qu'on est chargé et fatigué, et puis qu'on devrait répondre à son invitation de se décharger. Donc, il dit pas le mot décharger, mais il y a cette idée de se décharger pour se charger à nouveau. Un joug, c'était quelque chose qu'on utilisait de façon littérale pour des animaux qui labouraient un champ. Par exemple, on mettait un outil derrière, puis il fallait que les deux animaux soient d'égale grosseur. Puis il y avait l'idée de ne pas mettre un animal qui était plus fort que l'autre, plus rapide que l'autre, parce qu'il y en a un des deux qui se blesserait dans cette histoire-là. Puis quand on parle de l'esclavage dans la Bible, on va voir souvent le terme « joug de l'esclavage ». Quand on regarde dans les écrits anciens, on voit que le mot « joug » était utilisé pour une illustration d'un pays qui tombait sous le joug d'un autre. Puis, c'est utilisé aussi pour une illustration d'un quelqu'un qui devient sous le joug d'un esclavage, comme si on le comparait à une bête de somme qui travaille pour un maître qui a perdu sa liberté. Fait qu'aujourd'hui, on est invité à prendre le joug de Christ. Et donc, le titre de ma série, ça va être « Aimer le monde au travers de Christ ». Aimer le monde au travers de Christ. Puis aujourd'hui, plus précisément, c'est, j'ai écrit mon thème, je vais juste voir ce que je l'ai mis. Je vous donnerai le thème. Hein, où est-ce que j'ai mis ça, cette feuille-là? Ah, c'est ici. pour sur le CD ou sur Internet, choisis ton joug. Choisis ton joug. À matin, ce qu'on va comprendre, c'est qu'est-ce que le joug de Christ? Qu'est-ce que le joug de Christ? Qu'est-ce qui est un joug illégitime ou un joug que Dieu n'a pas prévu pour moi? Puis finalement, comment est-ce qu'on pourrait se décharger pour se charger à nouveau? Parce qu'il faut lâcher un voyage, puis il faut en prendre un autre. Jésus nous propose de prendre son joug. Ça va être ça qu'on va regarder ce matin. Le sujet est évident. Aimer le monde au travers de Christ, ça a l'air évident. Dieu nous fait une demande. Comme il aime le monde, ou comme il a aimé ses disciples, il veut que ses disciples s'aiment comme lui nous a aimés. Et on voit ça partout dans les écrits, surtout de Jean. Cette invitation-là à aimer Dieu, puis à aimer l'autre comme Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Ça, c'est facile à comprendre, mais c'est frustrant à faire. Aimer comme Christ a aimé. On va regarder comment Christ a aimé. Puis ça peut devenir frustrant. Vous allez voir que ça peut devenir frustrant à faire. On peut le prendre comme un fardeau dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire savoir qu'il faut que je le fasse, mais être frustré parce que je n'arrive pas à le faire. Et on pourrait arriver à une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension de ce passage-là. Jésus dit que son fardeau, il est doux et léger. Donc, ce qu'il nous propose de prendre sur nos épaules, c'est qu'il nous voit chargés, il nous voit fatigués, puis il dit « Hey, change d'outil, man. Ton outil t'épuise, là. Tu as besoin d'un nouvel outil parce que ton outil, là, il te fatigue, il te charge. » Donc, l'invitation à prendre le fardeau de Christ, c'est aussi de prendre le fardeau avec Christ. Ce n'est pas un fardeau. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il ne fera pas avec nous. Donc, Jésus est avec nous pour faire ce qu'il nous demande de faire. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on vient de partager nos forces avec quelqu'un qui, en plus, veut passer du temps avec nous. Et on va voir que toute cette ampleur-là de avec Christ, ça vient faire quelque chose pour nous d'abord, puis pour les autres ensuite. Dans Hébreux 4, il dit « Veillez à entrer dans mon repos. » On a eu ce message-là là, au mois d'avril. « Entrez dans le repos de Dieu. » Veillez à entrer dans le repos de Dieu. Il existe un repos pour les enfants de Dieu. Jésus dit « Venez, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. » Il y a un repos pour le croyant, et c'est ce qu'on veut découvrir par son joug. Quand on rentre dans ce repos-là, le livre des Hébreux dit « On se repose de nos œuvres. » C'est une charge, donc, cette œuvre-là qu'il nous donne à faire, c'est une charge qui doit être portée à deux, et que si elle est portée seule, la charge que j'ai à porter, ou si elle est portée mal, elle me blesse. Donc, si je fais les choses seules pour Dieu, je vais être frustré, je vais même avoir un sentiment un peu mitigé envers ce que Dieu me demande. Il me demande de pardonner, il me demande d'aimer inconditionnellement, il me demande de servir ceux qui sont ingrats, il me demande de faire toutes sortes de choses, puis à chaque fois que je les fais, ça me frustre parce que je me dis, ces gens-là ne le méritent pas. Puis, je le fais, mais j'y vais un petit peu avec une réticence dans mon cœur parce que, au lieu de faire les choses avec lui, je fais les choses pour lui avec la force qui est en moi plutôt que la force qui est dans le Saint-Esprit qui est en moi. Maintenant, un joug. On dit que c'est le joug de Christ, mais est-ce que je peux être dans un joug avec quelqu'un d'autre? Oui, la Bible a dit, ne vous mettez pas avec des étrangers sous un joug étranger. Donc, par exemple, une femme croyante qui marierait un non-croyant. Déjà, dans le cœur, il y a déjà une inclinaison pour le croyant de servir Dieu, chercher les choses de Dieu, aller à l'église le dimanche, donner sa dîme. Il y a déjà comme ça dans le cœur de cette personne-là, mais chez le non-croyant, il n'y a pas nécessairement cette aspiration-là de servir le Créateur, tu sais. Fait que là, on a un joug, mais on a quelqu'un qui marche par là, puis l'autre qui marche par là. Normalement, on serait supposé de tous les deux faire un projet qu'on sent que quand on a avancé tous les deux dans la même direction, deux sont plus forts qu'un seul, l'Ecclésiaste va nous dire. Alors, oui, on pourrait se mettre en joug avec quelqu'un d'autre qui ne marche pas avec Dieu et ça pourrait faire du tort. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais parler plutôt de ma chair. Ma chair, ce n'est pas moi. Romains dit que ma chair, puis je ne parle pas de la peau avec du sang, puis qui peut avoir froid ou chaud, là on pourrait dire plutôt chaud de ce temps-ci. On a dit que c'était une des journées les plus chaudes depuis qu'on remesure la température. C'était quand ça, Ben? Vendredi. Wow! Fait que, c'est chaud. On va parler plutôt de chaud que de froid. Donc, c'est pas la peau puis les os, là, la chair. Quand on voit ça dans la Bible, la chair, c'est C'est la vie, la nature en moi séparée d'avec Christ. Puis je ne suis pas la chair. Moi, la Bible dit que je suis moi, puis à l'intérieur de moi, il y a une nature pécheresse. Et quand j'ai accepté Christ, j'ai reçu une nouvelle nature. Puis Paul va dire, ce n'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui habite en moi. Il veut vraiment une distinction entre lui et sa chair. Et tout le livre de Romains, j'aurais le goût peut-être un jour de réenseigner ce livre-là. Je l'ai enseigné verset par verset. Mais il personnifie le péché comme étant un individu qui habite, comme un peu un locataire chez moi. La vieille nature pécheresse dans le livre de Romains est personnifiée comme un maître dont j'étais l'esclave. Dont j'étais l'esclave, une personne à ne pas affectionner, mais à reconnaître comme morte. Le défi aujourd'hui, aimer le monde. Mais il y a ma chair qui s'aime elle-même. Ma vieille nature pécheresse fait tout graviter autour d'elle, de ses besoins, de ses caprices, de ses désirs. Et puis elle m'amène à vivre une vie, cette chair-là, une vie séparée d'avec le Créateur, puis de me débrouiller par moi-même. Et ça cause un problème, parce que cette chair-là, si j'essaie de venir avec cette chair-là pour aimer le monde puis aimer Dieu, comme je vais rester dans l'écran pour le bénéfice de mes amis ici, le caméraman ne me suit pas. Ben, je ne sais pas si c'est pour votre bénéfice, là. J'essaie de me mettre beau. Ben, c'est une blague. Le challenge, c'est d'aimer le monde. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Pas, Jésus, il n'a pas voyagé bien en dehors de la Palestine, et pourtant, Jésus ne dit pas que Dieu a tant aimé la Palestine ou son peuple d'Israël qui est venu sur la terre. La Bible a dit « car il a aimé tout le monde ». Dans Jean 1,10, c'est écrit « il est la lumière qui, venant dans le monde, éclaire tous les hommes, mais les hommes ne l'ont point connu, deuxièmement, ils ne l'ont point reçu ». C'était dans un temps où on n'a pas reçu cette lumière-là. Cette lumière-là est venue faire quoi? Elle est venue mettre en lumière des choses dans nos ténèbres, puis on n'a pas voulu venir se laisser éclairer. Mais c'est un amour qui vient éclairer ceux qui ne veulent pas se laisser éclairer. C'est un amour qui vient quand même, avec des bonnes chances, qu'on le crucifie, en plus. Dans Matthieu 13, 38, Jésus explique les paraboles, puis il dit, le monde, le champ, c'est le monde. Dans Matthieu 24, 14, quand il parle de la grande tribulation, qui arrivera sous peu, la bonne nouvelle doit être annoncée dans tout le monde. Dans Marc 16,15, il nous demande aux apôtres puis à tous les disciples d'aller par tout le monde. Le cœur de Dieu, c'est d'aimer tout le monde. À quoi est-ce que ça ressemble, l'amour de Jésus-Christ pour tout le monde? Bien, il y a un cœur, il y a un cœur à grosseur du monde, si on pourrait dire. L'amour de Dieu pour le monde est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dans Romains 5,5. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vient déverser l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et dans le contexte du passage, on sait que c'est vrai parce que Christ est mort. Et, on meurt pour quelqu'un de bien. T'sais, on va peut-être mourir, donner un organe qui fait que moi je vais mourir, mais quelqu'un que j'aime va vivre. Il dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien, mais Christ prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions ses ennemis, Christ est mort pour nous. Et donc, l'amour que Christ déverse dans nos cœurs, c'est un amour qui est bon pour ceux qui ne méritent pas. Pourquoi je l'aimerais, lui? Pourquoi je le pardonnerais, lui ou elle? Pourquoi est-ce que je servirais ses besoins à elle, à cette personne-là? C'est un amour pour des pécheurs et c'est pour des gens qui déméritent. Le verset 8 dit « quand nous étions encore sans force », puis il y a certains versets qui disent, traduction, qui disent « quand nous étions encore ennemis, Christ est mort pour nous ». Ça, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Quand on ne le cherchait pas, quand on ne faisait pas des œuvres, quand on était digne d'être haï, comme on trouve dans certains passages, Christ est mort pour nous. Cet amour-là, c'est la qualité d'amour que Christ a pour le monde. Puis vous en faites partie. C'est aussi un amour qui sert. Jésus dit dans Matthieu 20, 28, « Je ne suis pas venu pour me faire servir. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose pour moi? Est-ce que je suis tout seul dans l'univers? Jésus n'est pas venu pour savoir combien de gens pourraient le suivre, combien de gens pourraient l'aimer ou le respecter. Il est venu pour donner sa vie pour le monde. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Donc, l'amour que Dieu a pour le monde, c'est un amour de Il est le Créateur, puis il dit, « Moi, qui suis le Créateur, je suis venu pour vous laver les pieds. » C'est un amour qui sert l'autre. Parfois, on pose la question, est-ce que je suis aimable? Est-ce qu'on m'aime? Est-ce que j'ai des amis? Puis là, qu'est-ce que révèlent ces questions-là? Elles révèlent une occupation, suroccupation de soi. Elles révèlent un cœur brisé, un cœur qui n'a pas été comblé ou qui a besoin d'être guéri. Alors, qu'est-ce qui arrive? On se tourne, on est très occupé par sa propre personne, on n'est pas guéri, on n'est pas restauré pour dire, ben regarde, je vais aussi être là pour l'autre, je vais être là pour que l'autre se sente aimé. On va se poser la question s'il m'a dit bonjour, s'il m'a parlé comme il faut, si. Mais est-ce que moi, je me pose la question, est-ce que je sers dans cette relation-là ou je prends dans les relations? Alors, l'amour de Jésus, c'est un amour, bien, c'est sûr que Jésus, lui, est pleinement satisfait dans la Trinité. Nous autres, on a des enfances comme on a eu des enfances, puis on a une vie comme on a eu une vie, puis ça se pourrait que la question qui soit primordiale pour nous, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à moi? Est-ce que je suis important? Et parfois, si on ne règle pas ce problème-là d'être guéri, puis c'est pour ça, même dans l'énoncé de vision et de mission de l'Église, je voulais proposer qu'il y ait cet aspect-là d'être guéri, d'être restauré, parce que venir à Jésus, ce n'est pas juste de prendre un fardeau, puis de partir, puis d'aller aimer le monde. Ce n'est pas juste d'aller le servir une personne à la fois, c'est rencontrer Christ, être guéri, être mieux, et le servir avec joie une personne à la fois. Donc cet élément-là d'être guéri ou d'aller mieux, je ne sais pas comment que les anciens, on va le cuisiner, mais certainement, vous savez que depuis plus de 10-15 ans, on met l'emphase sur la guérison puis la restauration du cœur. Donc, quand on est suroccupé par soi, ça révèle une souffrance et un cœur qui a besoin, il y a un besoin, il y a besoin d'être guéri. Et le danger, c'est de se tourner vers des machines à like. On est dans l'ère de, je pense, il n'y a jamais eu autant un souci de est-ce que je suis important? Est-ce que le repas que j'ai fait est important? Je vais aller mettre une photo de mon repas sur Facebook pour aller voir s'il y a quelqu'un qui pense à moi dans l'univers ou si je ne suis pas seul. Hein? Mais qu'est-ce que Dieu veut m'amener à faire? Il veut que je réalise comment je suis aimé par mon Créateur et comment il veut faire sa demeure en moi, se sentir à la maison dans mon cœur. Il veut me fortifier par son Saint-Esprit puis il veut me faire connaître la hauteur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu envers moi. Donc Dieu aime le monde. Et j'en fais partie. Ça, c'est important. J'ai souvent dit, vous n'êtes pas l'outil du dernier tiroir de Dieu que Dieu veut. Parce que Dieu a juste aimé les gens en Palestine. Là, il a laissé la parole, il a laissé des disciples. Puis il s'attend à ce que, comme vous vous êtes aimés, les gens vont réaliser que je vous ai aimé. Fait que lui, là, il mise gros sur l'Église, le Seigneur, puis il dit, regardez, vous êtes la chair et les os du corps de Christ. La tête est au ciel, comme l'image du cerf-volant avec Gilles. Alors, Dieu va me donner des amis, un conjoint, une conjointe, des membres de ma famille, une église pour me montrer que je fais partie du monde et que Dieu m'aime. Il te donne à moi, puis il me fait réaliser que j'ai une valeur, que je suis aimé. Il est tel ami plus près qu'un frère, hein, la Bible a dit. Il va me montrer par de l'amitié, par des amis. Mais il va me placer au milieu d'une église, au milieu d'une famille, dans un milieu de travail, dans le monde, pour qu'en allant au travers le monde, je puisse montrer aux gens qui sont précieux pour le Créateur. Et si je veux que le monde existe pour que je sois pour moi, mais que moi je n'existe pas pour le monde, là on a un problème. On a un problème parce qu'on a un cœur malade. Puis qu'est-ce que Jésus-Christ il nous invite à faire? Il nous attire à venir à lui et à prendre son fardeau, son joug. Son joug, en passant, c'est pas sa croix. Ça veut dire que je vais aller au travail, je vais parler de Jésus, les gens vont rire de moi, je vais me faire ridiculiser, ça c'est ma croix. C'est pas ça. Vous avez vu ça avec Pasteur Richard. Mais le joug que Christ ici nous amène à prendre, c'est le service que Jésus a envers le monde. Le service que Jésus a envers le monde, il dit « le champ, c'est le monde ». Puis là, on vient labourer le monde, puis Dieu dit « le champ, c'est le monde, la semence, c'est la parole, puis celui qui sème, c'est le Fils de l'homme ». Fait que moi, là, je m'en viens, là, puis Jésus est monté aux cieux, puis là, il est redescendu par le Saint-Esprit en nous. Puis là, il y a un joug, puis il me dit, « Veux-tu partager un joug avec moi? Le champ, c'est le monde. Moi, je suis celui qui a semé. » Fait que Jésus rend un service au monde. Dans Jérémie 31:30, il dit que de loin, l'Éternel se montre à moi, et c'est pour ça qu'il nous conserve sa bonté. La première affaire qu'on a besoin de faire, si on veut prendre le fardeau de Christ, c'est de prendre Christ et le fardeau. Ce que je veux dire par là, c'est que faut réaliser que l'amour qu'il a envers le monde, c'est un amour qu'il a pour moi. Pensez au pire moment. Pensez à la pire chose que vous avez fait, même depuis que vous êtes chrétien. Vous dites, j'aimerais ça que c'est mon cadavre qui est dans un garde-robe, j'aimerais ça qu'on n'en reparle pas. Même au tribunal de Christ, si possible. Pensez à cette chose-là. Est-ce que Christ vous a racheté? Est-ce que Christ vous a mis de côté? Ou il est venu, il vous a donné sa parole, il vous a restauré, il vous a pardonné encore et encore et encore. Donc Dieu nous a aimés quand on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous et il nous aime au fond. OK, son fils est en train de se faire dépecer sur la croix. Moi, ma fille, elle a fait un tête-à-queue sur la 40 à 100 km/h sur une flaque d'eau hier. Il y avait un camion à sa droite, un parapet de béton à gauche. Elle a spiné, elle a parti, elle a dansé comme ça. Puis à cause, ça a ralenti son char, la vanne, elle a avancé. Elle s'est ramassée dans la voie du milieu. Elle était rendue à 180 degrés. Les trois voies se sont arrêtées. Ça klaxonnait en arrière parce qu'il y en a qui ne comprenaient pas. Elle a reculé, avancé, a reculé, avancé, a reculé, avancé. Elle s'est mise sur le bord du chemin, elle m'a appelé. Qu'est-ce qu'il y a, Kayla? Mon cœur a fait trois tours. Là, je m'en allais, mais elle avait besoin de quelqu'un pour conduire pour elle. J'ai dit, je vais laisser mon char là pour amener son char. Je ne savais pas quoi faire. Hey, quand il arrive quelque chose à ta fille, à ton fils, ça t'arrive à toi, c'est ta chair. Dieu est là, puis il regarde son fils se faire crucifier. Il est le juge de l'univers, mais en plus, c'est celui qui peut tout arrêter. Il est celui qui peut peser sur reset. Puis il laisse faire. Jésus, il demande à son Père, il dit, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ils vont venir en jugement, même s'ils ne sont pas sauvés, admettons qu'ils me rejettent encore et encore et encore, permet que leur cœur ne s'endurcisse pas au point que plus tard, ils ne puissent pas croire, mais fait qu'ils ne soient pas punis pour ça au grand jugement. Il prie pour ses bourreaux. Il prie pour ceux qu'il persécute. Il aime ceux qui ne sont pas dignes d'être aimés. Et quand on regarde ça, on réalise que c'est ça qu'il fait pour nous. C'est ça qu'il fait pour nous. Hein? Son fardeau pour nous n'est pas trop lourd et il n'est pas trop dur. Il n'est pas blessant. Il va dire, mon fardeau est doux et est léger. Donc, quand on est inégal, dans notre fardeau, on va être blessé facilement, comme si on s'était mal attaché. Si on est mal arrimé à Jésus-Christ, on va être blessé dans cette histoire-là parce qu'on va dire que c'est injuste d'aimer des gens qui font du mal à nos enfants ou à notre propre famille, à nous-mêmes. On va être blessé, un peu comme un patin qui est mal attaché. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, quand j'ai commencé à patiner, je patinais sur le cuir. Les lames étaient comme ça. Puis là, je me suis souvenu de ma sœur, puis je me rappelais que ma sœur, elle envoyait promener les jeunes du village qui riaient de moi. Puis elle me pognait par le coude, puis elle me relevait sur mes pieds, puis elle m'aidait à attacher mes patins. Puis des fois, on se dit, on regarde notre enfance, on se dit, ah, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. Moi, j'avais une bodyguard, j'avais ma sœur qui me protégeait pour que j'apprenne à patiner. Puis je peux vous dire, j'ai des vieux patins en cuir des années 70, mon père qui m'a donné. Hein. Je patine droit. C'est grâce à ma sœur, puis aussi parce que je ne voulais plus qu'on rie de moi. Son fardeau n'est pas dur, il n'est pas lourd, il est léger. Quand on est mal attaché comme un patin, c'est sûr qu'on a besoin d'aide là, de l'extérieur. Puis là, Dieu dit, hey, prends le joug avec moi. C'est un peu comme un ébéniste qui te montrait à utiliser sa scie, ou ben non, un plombier qui te montrait à poser ta colle dans ton tuyau, ou que toi, tu es là, tu regardes les rénovations que tu as à faire chez vous, puis tu te dis, oh là là, par où que je commence, tu sais. Puis, Stéphane, ou ben non, Pat, ou ben non, si c'est un métier plus féminin, on va dire, je sais pas, moi, c'est quoi, les techniques pour éduquer les enfants, tu sais. Colette, elle dit, écoute, appelle-moi, je veux dire, si tu as besoin. Pour cette, ben là, je sais pas ce que je pue avec les jeunes enfants, mais vous comprenez un peu le principe. Jésus dit, hey, la prochaine fois, là je te vois, tu es fatigué, là. Tu es chargé. Appelle-moi. Puis en plus, pendant qu'on va raboter, on va manger ensemble, on va prendre une pause ensemble. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va avec ta femme? Puis là, on rabote, on travaille sur l'instrument. Tu veux cet instrument-là? On a jasé ensemble, on a travaillé ensemble, puis en plus, hey, fais pas ça comme ça. Fais-les comme ça, regarde, tu vas voir, tu n'auras pas de retard, puis tu vas sauver bien de l'argent. Ah ouais? Ah ben crime. Hey, merci d'être mon ami. Steph est au prélèvement présentement, puis elle est la plus vieille de son département parce que tout le monde est parti en vacances, puis c'est tous des nouveaux qui arrivent, puis ils ne savent pas comme plein de choses, que des repères qu'ils n'ont pas. Puis Steph a dit, là, elle dit, celle que je m'appuie toujours pour lui demander, tu sais, des fois, tu as un patient qui est difficile à piquer, elle les envoie, tu sais. Mais là, il y en a une qui ne vient jamais le samedi, elle est venue à effectif réduit un samedi, puis là, elle dit, elle a comme fait une joke, on va dire, qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Puis là, Steph a dit, tu sais, elle dit, d'une certaine manière, ça me stresse, mais ça ne m'inquiète pas parce que je peux appeler à Nemato pour les gens du sang, ou bien non, je peux appeler au laboratoire pour avoir quelques conseils. Ça ne m'énerve pas parce que je sais que je ne suis pas seul. Et c'est ça, porter le joug avec Christ. Porter le joug avec Christ, c'est-tu quoi? Fais pas ça tout seul. Appelle-moi la prochaine fois que tu fais ça. La prochaine fois que tu as géré un problème dans ton couple, appelle-moi. Je vais te conseiller. Je vais avoir les regards sur toi. Je vais te montrer comment faire. Je vais te montrer une voie par excellence pour le faire. On n'est pas seul. Pratiquement, on n'est pas seul. On n'a pas à se plaindre puis dire, j'ai pas d'amis, je suis tout seul, notre église est petite, on a des trop gros défis. Oui, on peut arriver à comptabiliser puis dire, est-ce que ça va avec la part de chacun? On est-tu encore correct? Ça va? Mais ce que je veux dire par là, c'est, je ne suis pas le système solaire avec plein de planètes qui tournent autour de moi, misérable que je suis. Dieu dit, hey, hello, je suis là, je suis la Trinité qui habite en toi, et puis je veux déverser mon amour dans ton cœur pour que tu sois plus que vainqueur dans ces situations-là. Dans le livre d'Hébreux, il y a deux fardeaux qui sont particuliers. Tournez dans Hébreux au chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 1. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On va lire. OK, peut-être comme ça. Il dit ici qu'il y a deux affaires qu'on doit rejeter. L'image qui est prise, c'est un stade. Il y a des témoins, ce sont ceux qui, dans Hébreux 11, sont morts. Ils sont les héros de la foi, ceux qui sont morts sans avoir obtenu ce pour quoi ils s'étaient battus. Ils attendent encore le millénium puis les récompenses. Ils sont là, sont morts. Il nous a parlé de Moïse, il nous a parlé d'Abraham, il nous a parlé. Puisque nous sommes environnés des gens qui ont fini leur course, puis nous, on est comme dans une course à relais, ils sont là. Nous, on est en train de faire cette course-là. Puis là, il dit, là, c'est à votre tour, là. À un moment donné, ça ne sera plus votre tour. C'est le seul temps dans l'histoire, dans votre histoire, que vous pouvez être pour Dieu dans un monde qui est contre Dieu. C'est le temps. Donnez votre meilleur shot, puis enlevez des fardeaux qui s'englobent plus facilement autour de vous. Puis il va parler de deux types. Il va dire, rejetez le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a l'idée de se faire envelopper facilement. Premièrement, les fardeaux. Le mot original est utilisé juste une fois dans le Nouveau Testament, et c'est l'idée d'un poids. Est-ce que c'est l'idée d'un pack-sac avec des choses qu'on a accumulées puis que là, ça alourdit pendant qu'on fait notre course puis ça nous essouffle? Sûrement. Je sais pas c'est quoi l'image. C'est-tu un vêtement qui est que c'est un triathlon, puis là, tu es rendu que tu as pris de l'eau, puis tes vêtements, ils ont ramassé de l'eau, la saleté, puis là, c'est plus l'eau. Je sais pas. Mais c'est un poids. Un poids. Il y a des poids qu'on ramasse que Dieu sont illégitimes. Je vous disais que dans mon message, je vous parlais du joug de Christ et que je vous parlerais des jougs illégitimes ou des poids qui sont illégitimes. Il y a des fardeaux qu'on porte qu'on ne devrait pas porter, qui alourdissent. Dans 1 Pierre 3, 7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. » La première chose qu'on a besoin quand on est chargé et fatigué puis qu'on s'approche de Christ, c'est qu'on s'approche de Christ puis ensuite de son fardeau. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, premièrement. Deuxièmement, prenez mon joug, recevez mes instructions. La première chose qu'on a besoin de faire, c'est de se décharger sur lui, comme si on prenait quelque chose et on le mettait loin de soi. Puis, Hébreux nous dit, vous courez une course, puis vous portez un poids. C'est normal que si vous faites cette course-là, puis que vous portez ce poids-là, votre vie chrétienne soit triste, elle soit frustrante, elle soit trop lourde pour un chrétien à porter. Il y a des lourdeurs qui nous pèsent. Ça peut être des responsabilités qu'on ne peut pas enlever. Il y a des moments où on ne peut pas enlever des responsabilités. Hein? Mais on peut lui dire ce qui nous pèse dans ces responsabilités-là, puis de venir à lui. Puis peut-être qu'il va nous montrer un outil qui va faire que, comme dans l'Ecclésiaste, c'est dit, quand on aiguise le fer, on a émoussé le fer, on redoublera d'efforts. Fait qu'on peut aller demander à Dieu la sagesse pour savoir comment. On peut y amener ces fardeaux-là. Il y a des objectifs, des buts qui sont malsains. Quand est-ce qu'un but est malsain pour une personne? C'est quand je désire pour quelqu'un d'autre. J'aimerais, par exemple, que mon fils devenu grand marche avec Dieu, fasse des bons choix, etc. T'sais. Et mon fils, il me remercie ces temps-ci parce que il est sur le point d'acheter un véhicule, t'sais, puis il écoute les conseils, il demande des conseils, puis... Tu sais, c'est la joie d'un père de savoir qu'un fils écoute les conseils. Peut-être que tu veux pour l'autre. Peut-être que tu veux que, je ne sais pas moi, tu as su que ton frère trompait sa femme. Puis tu portes ce fardeau-là parce que tu aimerais tellement qu'il soit fidèle. Tu sais. Porter le fardeau d'autrui, c'est un fardeau qui est malsain parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Dans l'idée, c'est que c'est malsain parce que tu ne peux pas changer parce que c'est la responsabilité d'un autre. Et c'est des fardeaux qui peuvent devenir malsains, trop lourds pour quelqu'un. Tu veux quelque chose, mais ton patron, ton mari, ta femme, ou une situation fait que tu ne peux pas y arriver, puis tu as le goût de casser des portes pour pouvoir faire arriver ces choses-là. Tu portes un fardeau d'un objectif inatteignable parce qu'il dépend aussi de d'autres personnes, dont Dieu, avec qui tu as été mis en joug avec, puis Dieu dit, non, tu ne t'en vas pas par là, mon ami. À un moment donné, Josaphat, il a fait des navires avec le fils d'Akab, puis c'est écrit que Dieu fit couler leur navire car ils n'étaient pas d'accord avec leur projet. Hein? Fait que quand que Dieu n'est pas d'accord aussi, c'est important de quand même, on a quand même accepté Christ comme Seigneur, hein? C'est-à-dire comme maître. C'est-à-dire, si Dieu n'est pas d'accord avec toi, il va se mettre en armes contre toi pour te bloquer. Fait que ça peut être un fardeau, ça aussi. Fait que tout aussi bien d'aller avec Dieu que contre Dieu. Fait que dans Proverbe 16, c'est écrit « Les projets de l'homme sont purs à ses yeux, mais la réponse que donne la bouche de l'Éternel dépend de la bouche. » Fait que dans le fond, Dieu il va donner une réponse, mais on peut être contrarié. On veut tellement qu'il y ait quelque chose qui arrive. On veut une manière de faire. On veut pas sortir de notre manière de faire. J'ai toujours fait ça comme ça. C'est comme ça qu'on va faire, puis ça changera pas. Puis là, tu prends des fardeaux, puis Dieu dit, hey, t'es une vieille outre, mon ami. Il faut que tu sois une nouvelle outre qui va recevoir du nouveau vin, puis ça va. Il faut qu'il y ait de l'étirement qui se fasse, comme on a vu dans le dernier message. Donc, les fardeaux nous enveloppent facilement. On se prend des fardeaux, on est comme du velcro, puis on s'attache des choses après nous, puis régulièrement, on a besoin de savoir, est-ce que mes objectifs que je suis en train de prendre sont sains? Est-ce que les responsabilités que j'ai acceptées pour ma vie, c'est sain? Est-ce que je devrais continuer? Comment je vais par rapport à ces engagements-là? Il faut se dégager de fardeau parce que si on ne prend plus plaisir en notre Dieu et que le service n'est plus fait avec joie, ben on va servir nos ennemis, comme c'est écrit dans la parole. Je pense que c'est dans Deutéronome. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit de rejeter, c'est de mettre loin de soi des fardeaux. Ça nous enveloppe facilement. Et là, envelopper, c'est quoi qui nous enveloppe, nous? Qu'est-ce qui nous enveloppe? du linge, des vêtements. Fait que c'est probablement des vêtements ici qui nous enveloppent facilement. Il dit voyage léger. Il y a une parabole où Jésus nous parle qu'une des tentations, des obstacles que Dieu, du travail de Dieu dans notre cœur, ça va être un enveloppement d'épines. Vous rappelez-vous? À quoi représentent les épines quand la semence est semée puis les épines ils viennent autour du plant puis ils viennent l'étouffer puis il n'y a jamais un fruit qui vient à maturité? C'est quoi ces épines-là? Rappelez-vous? Les soucis du monde. Marc va dire l'invasion des richesses. Quoi d'autre? Les soucis de ce siècle aussi dans une version. Les soucis, les invasions des richesses puis les désirs de la vie. Donc, je veux faire des choses dans le monde, je veux obtenir des biens, je convoite. La Bible a dit, le monde passe et ça convoitise aussi. Mais pendant que je suis ici, sur terre, si je ne pense qu'à m'installer pour ce monde, ici, bien, peut-être que j'ai plein de soucis qui sont reliés au fait qu'il faut pas que personne vole tous les biens que j'ai acquéris. Jésus dit, cherchez les trésors où la rouille et le voleur ne percent. Peut-être que j'ai trop mes yeux sur les biens terrestres, qu'est-ce que je veux obtenir, que je m'éloigne de mon Créateur. Puis ça devient un enrobement facilement. Ça nous enrobe facilement. C'est un des pièges du nouveau croyant, c'est qu'il va quitter le rassemblement quand il va avoir un petit souci financier, puis il va avoir des dettes, ou il va avoir besoin de se trouver un deuxième job pour rejoindre les deux bouts. Ah, c'est intéressant. Donc, ça nous enrobe facilement. Donc, une course, attention, tu es dans une course où si tu prends trop de poids sur toi, tu finiras pas. Tu vas mal finir. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être sauvé, ça veut dire que tu vas mal finir. Tu ne finiras pas comme un chrétien qui a atteint sa mission d'aimer le monde au travers de Christ. Tu auras porté d'autres fardeaux. Ou une plante qui ne porte pas de fruits. Le deuxième élément que Hébreu dit, rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Une des définitions pour le péché, c'est manquer un but. Si je manque le but d'aimer l'autre comme Christ aime l'autre, bien, je peux manquer parce que c'est soit pas suffisant, un peu comme si je lançais un javelot, mais je ne l'avais pas lancé assez loin, ou j'ai manqué une cible, j'ai pas rentré dans ce qui était attendu de cette chose-là. Donc, amartia, H-A-M-A-R-T-I-A, ça veut dire omission. Omettre de te rendre jusque-là ou omettre de pas dépasser ça. Donc, quand on dit qu'il y a une ligne-là puis que j'ai dépassé cette ligne-là, tu sais, fais pas ça envers ton prochain, par exemple. Fais pas ça envers ton prochain. Puis, je le fais. Là, j'ai transgressé, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, j'ai dépassé ce qui était attendu de moi. Ou aime Christ, aime les frères et sœurs comme Christ a aimé les disciples, mais je ne me rends pas jusque-là. C'est un péché d'omission. Donc, j'omets de me rendre ou j'omets de ne pas dépasser. Il y a deux négations. Hein? Donc, manquer la cible. Le mot armatia veut dire aussi errer. Tu sais, quand tu te trompes d'un chemin puis que ça fait juste 10 minutes que tu roules, tu peux peut-être prendre un chemin de campagne pour faire ça. Mais parfois, quand tu erres sur un autre sentier qui est celui que Christ a pour toi ou qui veut marcher en tandem avec toi, puis que ça se peut qu'à un moment donné, le chemin soit de revenir à cet endroit-là pour continuer. Et donc, manquer le but ou armatia, ça veut dire aussi errer, prendre un autre chemin que Dieu a prévu pour nous. Donc, faites attention quand vous êtes dans la course, que vous n'êtes pas en train d'avoir chargé du sentier du triathlon qui était supposé, là. Finissez pas à Québec si vous voulez finir à Montréal, finalement. Fait que, c'est ça. Ça veut dire manquer la cible. Ça veut dire, j'ai peut-être visé ailleurs. J'ai peut-être visé. Peut-être que c'est un fardeau, justement. Je me suis pris des fardeaux, mais j'ai pas pris les bonnes priorités. C'est aussi dans Romains, le mot armatia, c'est aussi la nature humaine qui est l'empire du péché en nous. Donc, la personne que je vous parlais. Être sous l'empire, être esclave de la chair pour en accomplir ses désirs. Comme un peu, j'ai vu des photos de Joug aussi, que c'était des colliers d'esclaves. Donc, des colliers d'esclaves où les personnes sont attachées. Des fois, il y avait même un bout de bois avec un trou dedans. Puis on les amenait à la queue leu-leu, là, hein, pour pas qu'ils sauvent. Bien, Romain dit, ne vous soumettez plus à la chair. Vous étiez sous l'empire du péché. Mais vous avez été libérés. Restez dans Romains 8, on va s'en aller là. On va terminer avec ça. Dans Romains 6, au verset 20, il dit qu'on ne doit pas se livrer à la pratique du péché, parce que quand on se livre à la pratique du péché, on se livre à l'esclavage et on finit à l'iniquité. Savez-vous c'est quoi l'iniquité? C'est la rébellion envers la bonne autorité. C'est une rébellion envers l'autorité. Fait que le péché, la pratique du péché, a fini par nous amener à un endroit où je ne veux pas faire ce que l'autorité me demande, même si l'autorité est bonne. Et dans l'occurrence, c'est une rébellion envers Dieu ici. Donc, Dieu dit, tu as en toi quelqu'un qui ne veut pas suivre la loi de Dieu et qui ne peut pas suivre la loi de Dieu. Lisez ça dans Romains 8, 3 à 7. Vous avez en vous une nature qui ne veut rien savoir de faire les choses que Dieu vous demande de faire, puis elle ne le peut même pas. Elle n'a même pas la force de le faire. Vous voulez aimer Dieu, vous voulez le servir, vous voulez agir comme lui, vous voulez aimer les ingrats, mais il y a une personne en vous qui est rebelle et qui est fermement faible. Fermement rebelle et faible. Donc, est-ce qu'on va y arriver? On va-tu être capable de faire ce que Jésus-Christ nous demande si on met un joug avec nous qui est la chair? Il y a un jeune qui est devenu fou, il s'appelait Hercule. Sa mère a dit, avance Hercule, avance Hercule, avance Hercule. Il est devenu fou. C'est une joke. C'est comme si on peut devenir fou en tant que chrétien. Il dit, avance Hercule, avance Hercule. Il dit avance, mais ta chair dit recule. Dieu dit aime et serre. Dieu dit la chair, elle dit non, je veux rien savoir. Fait que là, t'as un fardeau qui tourne en rond comme ça. T'es en train de devenir fou. Avance, recule, avance, recule. Vous pourrez lire Romains 7, 20 à 25. Paul, il dit crème. Il dit moi, là, je trouve dans mon cœur une loi qui aime la loi de Dieu. J'ai un cœur pour aimer la loi de Dieu, mais je vois en moi une loi qui agit dans mes membres, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Quand je ne veux pas faire le mal, bien, je finis par le faire. Puis là, il dit malheur à moi. Tu sais. Alors, comment est-ce qu'on obéit à Dieu quand on a en moi quelque chose de rebelle? Quand j'ai quelque chose en moi qui ne veut pas? Bien, premièrement, il faut reconnaître dans Romains 8, au verset 1. Là, vous êtes sûrement dans Romains 8, c'est notre dernier passage. Premièrement, il faut reconnaître que ce que Dieu a vu en nous comme condamnable, il l'a condamné. C'est déjà fait. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dans la chair de Jésus, ma chair a été identifiée comme étant punie. Fait que là, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que ce qui est en moi rebelle et qui ne veut pas marcher avec Dieu a reçu une condamnation, un peu comme un avis d'évincement, comme s'il y avait une lettre légale qui était signée qui disait « Vous devez, monsieur, quitter les lieux ». Il y a une lettre qui a été écrite, il y a déjà quelque chose qui est légalement fait. Puis la deuxième chose qu'il y a, c'est qu'il a placé son esprit en nous pour faire mourir ou évincer le vieux locataire. Fait qu'il y a comme deux choses. Il y a un énoncé de loi, puis il y a un huissier qui doit venir. Puis l'huissier, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient à l'intérieur de l'appartement, puis il vient dire à ce locataire-là, tu as eu le droit de vivre ici jusqu'à présent, mais maintenant, on travaille avec de nouveaux outils, avec un nouveau maître, ça ne marche plus de la même façon qu'avant, et on te prierait de sortir. Mais c'est plus violent que ça. Romain dit que c'est une crucifixion qui arrive. Fait qu'il y a deux choses, un avis puis un huissier qui vient. Dans le cas actuel, c'est à moi de condamner le péché dans ma chair. C'est à moi de faire mourir les actions du corps. À cause du temps, on ne le lira pas, mais du verset 8 à 13, c'est écrit « Par l'esprit, si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et donc, le problème, ce n'est pas que le monde n'est pas aimable et qu'ils ne veulent rien savoir de Dieu, fait que je ne leur parle pas de Dieu. Le problème, c'est que la lumière qui est venue dans le monde, dans un monde qui ne voulait pas d'elle, elle est quand même venue, cette lumière-là. Mon problème, c'est qu'il faut que j'aille trouver en Dieu cette force-là pour dire, écoute, je n'aimerais pas juste le monde de manière conditionnelle, je ne viendrai pas ici juste pour être servi, je vais venir et je vais essayer de pardonner comme Christ a pardonné, d'aimer comme Christ a aimé. Quand vous jouez à un jeu vidéo, à un moment donné, vous entendez bling, 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 ça vous dit que vous avez gagné assez de victoires pour avoir une nouvelle baguette de poule, puis c'est encore meilleur, vous allez être encore plus meilleur. Mais Jésus dit, hey, bling, 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 dans ta vie chrétienne, hey, tu peux upgrader. Tu peux prendre un nouvel outil, pas la vieille nature pécheresse, l'ancien locataire qui, lui, est faible et sans force et rebelle même à l'autorité de Dieu. Arrête cette folie-là, avance, recule, avance, recule, avance, recule. Arrête cette folie-là, prends un outil. Des fois, je suis un sniper sur un toit, puis il faut que je tue des criminels, tu sais. Mais il fait tchic, 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 tchic. Puis là, pendant qu'il refait sa munition, je me fais tirer, tu sais. Fait que là, ça dit, vous avez besoin d'un meilleur fusil. Fait que là, je gagne des diamants, puis je suis capable d'aller chercher mes diamants pour avoir 4 balles. Fait que là, ils disent de tuer 4 gars. Fait que j'ai remarqué, quand j'ai tiré, ils bougent pas par le bout, là. Ils sont pas encore morts, mais je peux les viser comme il faut. Bon, pour arriver ça à une conclusion. Dieu dit, hey, je t'ai upgradé. Quand tu as accepté Christ, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il habite en vous. Fait qu'autant que Romains 7, c'est « Ah, je ne suis pas capable, je n'y arrive pas. » Romains 8, c'est « l'Esprit. » Vous regarderez le nombre de fois que le mot « Esprit » est utilisé. Et là, je suis dans un joug, le locataire est parti, il y a un joug, Jésus prend soin de mon cœur, il prend soin de mes souffrances, je réalise que je fais partie du monde que lui aime. Il prend soin de moi, il dit, hey, la prochaine fois que tu fais ce projet-là, on le fait ensemble. OK? Ben, garde Jésus, regarde, j'étais pour faire ça de même, toi, tu le ferais comment? Fait que là, il te conseille par sa parole, il écoute tes prières, puis là, il prend soin de toi, il te donne du repos, il te met un jour, puis il dit, garde, on le fait ensemble. OK? On y va. Et c'est écrit que son joug est doux, son fardeau est léger, je suis pas blessé. Puis je suis en train de faire quelque chose qui était impossible aux hommes de faire, aimer mes ennemis, aimer comme Christ aime, prier pour quand j'ai un conflit. Si pour répondre à la question « Pourquoi est-ce que l'amour de Christ devrait être ma priorité? » Vous pourrez lire à la maison Romains 13, 8 à 12. Et là-dedans, ça dit, « Les ténèbres avancent. » Les ténèbres avancent. Puis il dit, redépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Encore une fois, c'est quoi se dépouiller, se revêtir, s'envelopper? C'est quoi ça, c'est un vêtement? Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres, utilisons les armes de la justice. Puis tout le contexte, c'est un contexte de s'aimer soi-même, de s'aimer aimer les uns les autres. Puis celui qui accomplit la loi de l'amour, il accomplit la loi. Tu sais. Présentement, on est dans des temps de la fin. Plus encore que quand Thessaloniciens. Il y a des gens qui m'écrivent, c'est quand la tribulation? C'est-tu l'enlèvement avant? C'est quoi les versets qui disent que là, tu sais, les gens, ils veulent savoir où c'est qu'on est. Puis Apocalypse, le premier verset, il dit, ces choses ont été écrites pour les serviteurs, pour qu'ils sachent connaître les temps. Puis que ces temps-là vont arriver très, très, très rapidement. Ça va comme arriver. Quand ça va commencer à arriver, ça va arriver rapidement. Mais je disais à la personne, présentement, nous, on est dans un air élastique. C'est un air qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va venir, mais on sait quand est-ce que la prochaine commence. Il y a la 70e semaine de Daniel, on sait que quand il y a un homme va se proclamer, qui va signer un traité de paix avec 10 autres grandes nations, puis ils vont avoir une paix internationale, quand ils vont faire ça, il y a un chronomètre qui va commencer là, mais l'Église va déjà avoir été enlevée. On sait que dès qu'il y a des tremblements de terre qui commencent à augmenter, des famines et des pestes, comme on voit présentement, ce sera le commencement de la fin des douleurs. Donc, les guerres à un niveau international, c'est arrivé déjà, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale. Les tremblements de terre sont aussi arrivés. on est dans les commencements de la fin. Donc, si l'histoire de l'Église, c'est une pente, puis on est en train de monter, puis tranquillement, on va glisser, puis on va arriver à destination, bien, on est dans le bas. On est dans le bas de cette pente-là. Depuis les Premières Guerres, Deuxième Guerre mondiale, puis avec ce qu'on voit, là, c'est ainsi. Je ne suis pas capable de faire l'œuvre de Dieu sans être proprement jougué à Christ. Premièrement, ce que je veux qu'on retienne, c'est que le joug de Christ, ce n'est pas de porter la croix dans le sens où on subit le même mépris que Christ, puis pauvre de nous, on est nous aussi rejetés, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire de prendre communion avec lui, qu'il prenne soin de nous premièrement, qu'on trouve le repos dans notre communion avec lui, puis qu'on se joigne avec lui comme quelqu'un qui est maître d'un instrument, puis il dit, garde, la prochaine fois, là, appelle-moi, tu vas voir, tu vas forcer moins. Fais-le à ma manière, tu vas porter du fruit, puis tu vas avoir du succès. Il nous offre une marche en tandem parce qu'il veut forcer avec nous. Il veut, avec l'Esprit de Saint qu'il a mis en nous, il veut nous remplir de son Saint-Esprit pour qu'on puisse faire des choses qu'on n'aurait pas faites seul. Puis à la fin de la journée, qu'on est encore, on ne soit pas complètement abattu. C'est un joug qui est merveilleux à porter. Que diriez-vous de quelqu'un qui est expert dans un domaine puis qui vous dit qu'il veut que la prochaine fois vous forciez moins? Puis qui vous invite afin que vous ayez moins dépensé d'argent, moins d'énergie, plus de joie puis une satisfaction dans ce que vous allez avoir accompli. Bien, c'est ça, marcher en tandem avec Jésus. Ce n'est pas un esclave avec des colliers en bois pour venir tout en arrière de l'autre comme ça, puis garde, on n'a plus de volonté, on est obligé de faire ce que Jésus-Christ nous demande. Non, c'est pas ça. Seigneur, merci pour le joug. Oui, Paul, il se dit esclave de Christ parce qu'il renonce lui-même à sa liberté, puis il dit, garde, moi, là, je vais faire exactement ce que tu vas me dire, Seigneur, mais c'est un esclavage volontaire que Paul a dit quand il s'appelle Doulos dans Romains 1.1. Par contre, le joug que tu nous parles, c'est plus un joug où ce qu'on est deux, qu'on va faire les choses ensemble. Tu nous proposes de déposer notre outil qui a été émoussé et qu'on doit redoubler de force pour faire quelque chose, puis tu nous demandes d'aller se joindre à toi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre qu'on est le monde pour lequel tu es mort. Rappelle-nous qu'au pire moment, même dans notre vie chrétienne, le pire moment qu'on a honte, notre cadavre dans le garde-robe, tu nous as fait grâce, tu nous fais grâce, tu nous pardonnes, puis tu veux encore marcher avec nous pour trouver une voie par excellence. Ah, Seigneur, je te dis, j'y arriverai pas. Aimer le monde comme tu aimes le monde, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas d'aimer l'Église comme tu aimes l'Église, à moins que tu me montres ton outil, tu me montres comment faire. Fait qu'on est désespérés, on a besoin de toi. Il est 28, j'aurais le goût. Juliane, si ton chant de Hillsong en...
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.